France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Game of Arthur la Fronde, le Moyen-Âge en série. Nous voici avec des chevaliers et des princesses, mais pas dans un conte de fées, non, dans les séries télévisées, et tout l'imaginaire médiéval est alors mobilisé. Des armures et des épées, des gueux, des trahisons, de l'amour. Pas si courtois que ça, du médiéval au médiévalisme, c'est le Moyen-Âge découpé en épisodes.
Veux-tu que je t'explique en quelques mots comment fonctionne le monde ?
Avec des petits mots, alors je suis bien moins intelligent que vous.
Vous parlez comme un de nos dieux.
Eh bien, je ne suis pas un dieu. À Dieu ne plaise.
Vous devez me tuer. Vous, les vikings, vous êtes incorrigibles. Vous sortez du ventre avec une seule chose en tête. Comment mourir? Que faites-vous de ce qu'il y a entre les deux?
Je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu. Maudit! Maudit! Vous serez tous maudits!
Tu trouves cela amusant?
Non, c'est une excellente leçon.
Et puis je vous en supplie, hein, essayez de vous détendre. Un bain, ça sert pas qu'à se laver. Ça sert surtout à penser à rien, à faire le vide.
N'ayez pas peur.
Faire le vide.
À faire le vide. Oui, dans la tête.
Vous les avez reconnus, Justine Breton?
Oui, bonjour.
Bonjour, il y a Kaamelott.
Il y a Kaamelott, Game of Thrones, Les Rois Maudits.
Oui, Vikings aussi.
Vikings, ah, belle liste. Hein.
Pas mal, hein. Justine Breton, vous êtes maîtresse de conférences en médiévalisme et en littérature comparée à l'Université de Lorraine. Vous êtes l'autrice d'un Moyen-Âge en clair-obscur, le médiévalisme dans les séries télévisées. Et avec vous aujourd'hui, Laurent Vissière, bonjour.
Bonjour.
Laurent Vissière, vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'Université d'Angers. Bah, vous aussi, vous les aviez, ces séries télévisées?
Alors, on les a vues souvent. Depuis les années 70.
Vous les avez vus comment? Vous les avez vus comme spectateur, j'imagine, mais aussi comme historien?
D'abord comme spectateur, et si on remonte au Roi Maudit, c'est comme petit spectateur, et c'était déjà une rediffusion. Et puis ensuite, et évidemment, comme historien, puisque c'est un enjeu pour l'historien, de voir comment on traite le médiéval, je dis même pas le Moyen-Âge, mais le médiéval, le médiévalisme, les images que l'on fournit d'une période qui est largement réinventée.
Parce que Les Rois Maudits, la série de Claude Barma, c'est le début des années 1970, 1972-1973, avec de nombreuses diffusions et rediffusions, ce qui fait que c'est une série qui peut traverser les générations. D'ailleurs, dites-nous, Justine Breton, qu'est-ce que le médiévalisme?
Alors le médiévalisme, c'est les résurgences du Moyen-Âge en dehors du Moyen-Âge. Quand on produit des œuvres qui parlent ou qui utilisent le Moyen-Âge, à partir globalement du XVIe siècle, mais ce qu'on fait énormément aujourd'hui, notamment dans les séries, c'est du médiévalisme, c'est-à-dire qu'on ne parle pas véritablement du Moyen-Âge, on prend le Moyen-Âge presque comme prétexte pour beaucoup parler de nous-mêmes.
Vous faites un lien en toutes les productions. Alors nous avons la littérature, bien sûr, qui s'empare du Moyen-Âge. Au XIXe siècle, on sait combien les romans historiques, oh là là, ça a créé un imaginaire du Moyen-Âge. Il y a le cinéma aussi, puis il y a les séries télévisées. Il y a un lien entre tout cela?
Oui, de fait, c'est des genres qui s'influencent les uns les autres. Et on pourrait élargir encore, hein, on parlait du XIXe siècle, mais on sait que le succès de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo a contribué aussi aux rénovations de Notre-Dame, au travail de Viollet-le-Duc, etc. Donc il y a vraiment une façon de d'infuser le médiévalisme un petit peu partout. Et les gens qui créent aujourd'hui, par exemple, des séries ou des films sur le Moyen-Âge, c'est des gens qui eux-mêmes ont grandi avec tous ces modèles-là, en écoutant de la musique médiévaliste, éventuellement, en lisant des BD. Donc, c'est des choses qui sont interconnectées.
Avec ce regard aussi apporté sur le Moyen-Âge. Mais alors là, ce regard historique, Laurent Vissière, là, quand on évoquait le 19e siècle, c'est aussi un moment où le regard porté par les historiens sur le Moyen-Âge et globalement par l'ensemble de la société, c'est un regard particulier. Il y a plusieurs lectures du Moyen-Âge qui ont pu être faites à différents moments de notre histoire.
Oui, en fait, il y a un moment fondateur, je dirais que c'est la fin du XVIIIe siècle. C'est le moment où on se met à redécouvrir le Moyen-Âge. On voit des pièces médiévalistes chez Voltaire, hein, par exemple, mais également chez Schiller. Il y a le mouvement romantique qui prend naissance un peu, en fait, avant la Révolution, mais ensuite, il y a la Révolution. Il y a la destruction de l'Ancien Régime, il y a la destruction des abbayes, des châteaux, des titres, des manuscrits qui circulent. Et puis, il y a une restauration et on essaye de redécouvrir le Moyen-Âge perçu comme une espèce d'âge d'or. Et ça, c'est le style troubadour des années 1820-1830, mais qui va transcender tout le 19e siècle avec la musique. On parlait de musique, mais vous avez Wagner à la fin du 19e siècle. C'est les légendes médiévales réactivées, alors avec un fond national, voire nationaliste. Il y a donc tout un imaginaire qui est réactivé d'abord, mais les historiens s'en emparent dans le même moment. On se met à restaurer des châteaux, on se met à fouiller, on se met à collectionner des objets que jusque-là on méprisait. Un immense mépris pour la peinture médiévale, par exemple, pour les objets médiévaux qui étaient barbares, qui étaient gothiques, et gothique a un sens extrêmement péjoratif. Et tout à coup, il y a une redécouverte que symbolise chez les historiens Viollet-le-Duc, qui certes a beaucoup d'excès, il reconstruit largement, mais également il vulgarise, il fait connaître dictionnaire du mobilier, dictionnaire à l'architecture, restent des bibles actuellement. Et je sais que ceux qui font les séries s'inspirent toujours des collections de costumes.
Justine Breton.
Oui, et ce qui est amusant, c'est qu'on évoque des noms là qui, en fait, ont toujours beaucoup d'influence aujourd'hui, en 2026, sur la façon dont on imagine le Moyen-Âge. Viollet-le-Duc, donc voilà, par son influence architecturale, c'est aussi quelqu'un qui apparaît, j'ai envie de dire, indirectement sur plein de lieux de tournage. Je pense à la série Merlin, qui a été en partie tournée au château de Pierrefonds, dans l'Oise, qui est un château refait, recréé presque, de toutes pièces, par Viollet-le-Duc. On évoquait Wagner. C'est depuis Wagner que les médiévistes luttent péniblement contre l'image des Vikings avec leur casque à cornes, par exemple. Donc, j'en profite pour saluer tous mes collègues qui s'acharnent aussi sur ça. Mais voilà, ça fait partie des imaginaires construits au XIXe siècle et qui se sont très vite cristallisés dans l'imaginaire collectif, ce qui fait qu'on continue en fait à les entretenir aujourd'hui. On en revient petit à petit, on avance un petit peu, on propose de nouvelles choses, mais de fait c'est difficile de lutter contre des images aussi bien ancrées.
Ah oui, moi je suis fasciné par l'énergie des médiévistes qui répondent systématiquement dès que des cornes apparaissent sur un casque viking, dès que le mot drakkar aussi est utilisé. Il n'y a pas de drakkar, c'est ça Justine Breton?
Tout à fait, non, mais c'est ça, c'est qu'en fait on a des images qui plaisent énormément en plus au public parce que ça convoque tout de suite quelque chose. Si on dit drakkar, tout le monde voit ce que c'est. Or, de fait, il faut retravailler. C'est des longs bateaux. C'est, voilà, on a toute une autre terminologie qui correspond d'ailleurs à des époques différentes. Mais voilà, on n'a pas la force de frappe d'un film hollywoodien ou d'une série à gros budget. Donc, il faut qu'on soit réactif systématiquement.
Vous avez de l'urticaire quand on dit moyenâgeux?
Moi un peu.
Moi surtout dans les copies.
Voilà, c'est ça, surtout dans les copies. Alors, réciter la dynastie des Capétiens direct, c'est pas une évidence. En tout cas, faut faire un effort. En revanche, quand nous voyons les séries télévisées, nous ne posons même pas de questions comment nous savons que le château doit être ainsi, qu'il a des créneaux, des machicoulis, que l'armure doit être ainsi. C'est aussi ça, la force de ces séries télévisées, c'est qu'elles mobilisent un imaginaire que nous n'avons même pas appris, au sens où il apparaît dès que nous sommes petits dans les livres de gamins. Il y a quand même des stéréotypes qui ont été mis en place, qui figent 1000 ans d'histoire. Et c'est ça qui est fascinant d'ailleurs.
Oui, le problème que nous avons, c'est que le Moyen-Âge n'a pas légué d'image. On a 1000 ans d'histoire, pratiquement aucune image pour la première moitié du millénaire, puis quelques miniatures, mais même lorsqu'on représente la guerre de 100 ans, on utilise essentiellement des miniatures flamandes des années 1460 qui illustrent les manuscrits de Froissart. Et donc, nous avons tous les combats du XIVe siècle représentés en costume flamand des années 1460. C'est-à-dire qu'il y a un anachronisme déjà majeur. Et même lorsque on pousse le sérieux jusqu'à utiliser une miniature médiévale, en général, elle est anachronique par rapport à ce qu'elle raconte. Et ça, c'est notre problème. Alors que les séries vont nous fournir immédiatement des milliards d'images immédiatement accessibles et qui vont nous impressionner. Parce que finalement, lorsque vous essayez d'imaginer le siège d'un château, qui dans la rue va utiliser une chronique médiévale qu'il n'a pas lue, qu'il ne connaît pas ou qu'il ne connaît que de manière dérivée? Les images qui lui viennent immédiatement, ce sont celles des films, ce sont celles des séries. Ah donc, oui. On ne peut même pas lutter là-dessus.
Non, c'est impossible. Et puis, d'ailleurs, mais ici, nous ne sommes pas là pour juger d'un point de vue historique ces séries. Au contraire, parce qu'elles sont elles-mêmes objets d'histoire et puis du divertissement. Donc, c'est ça qu'il faut rappeler avant tout.
Tout à fait, effectivement, le but de ces séries, ce n'est pas de faire un documentaire, et d'ailleurs, même les documentaires, on pourrait revenir parfois sur la valeur de fiction que ça peut avoir. Le but, c'est de raconter des histoires, de divertir, et soyons honnêtes, de gagner de l'argent aussi, hein, en ce faisant, puisque c'est aussi tout le principe, c'est une économie aussi. Donc, il y a des enjeux qui sont avant tout des enjeux de divertissement, on va raconter une histoire. Et la place de l'histoire médiévale ou de la culture médiévale, c'est secondaire dans tout ça. Il n'empêche que ça peut être des programmes qui vont avoir une influence de fait, hein, sur le grand public ou autre, parce que j'ai envie de dire, on est beaucoup de médiévistes à être venus à notre métier, à notre passion pour le Moyen-Âge, par la culture, par la littérature. Moi, j'ai grandi avec Kaamelott, voilà le résultat. Donc bon, on fait ce qu'on peut avec ça, mais de fait, c'est des choses qui vont nous donner aussi le goût d'aller creuser plus loin et d'aller voir la réalité historique, toutes ces recherches derrière la fiction.
Alors vous, c'est Kaamelott, donc c'est un Moyen-Âge ancien en transition avec l'Antiquité, hein, parce qu'avec Kaamelott, la série d'Alexandre Astier, nous sommes au 5e siècle, hein, c'est la fin de l'Empire romain, c'est ce monde en transition.
Oui, mais dans les premières saisons, on les représente beaucoup avec des armures de plate du 14e, 15e siècle, donc il faut faire une petite gymnastique temporelle quand même.
Vous, Laurent Bissière, s'il y avait une série qui vous a marqué?
Moi, je dirais que c'est Game of Thrones, et c'est pas avec elle que je suis allé au Moyen-Âge. Par contre, ça a donné de l'aura aux études médiévales, parce que le nombre de gens qui se sont intéressés au Moyen-Âge grâce à elle est impressionnant.
Ah oui?
Oui, tout à fait. Et je dirais à juste titre, parce que il faut pas oublier que le médiévalisme utilise non seulement l'histoire médiévale, mais l'imaginaire médiéval, ce qui est tout à fait différent, et c'est très largement repris. Or, l'imaginaire médiéval, on parlait de Kaamelott, qu'est-ce que c'est sinon la relecture d'événements plus ou moins mythiques du 5e siècle par des clercs et des écrivains du 12e siècle. Lorsqu'on voit le roi Arthur, il est représenté en chevalier du 12e siècle. Et comme le roi Arthur a du succès jusqu'à la fin du Moyen-Âge, il est représenté au 15e, au 14e, au 15e, avec des armures de plate, et les châteaux se dotent de machicoulis, et ils n'ont rien de post-romain. Et donc, cet imaginaire médiéval est, par définition, anachronique. Lorsqu'on représente des héros antiques, ils sont également en chevalier du Moyen-Âge, en paladin. Lorsqu'on représente Roland, dans la chanson de Roland, c'est un chevalier du XIe siècle, du type tapisserie de Bayeux, à la base. C'est pas un guerrier carolingien.
C'est-à-dire que les anachronismes dans les séries télévisées d'aujourd'hui sont le reflet des anachronismes qui existaient déjà au Moyen-Âge. Donc, il y a une double lecture à avoir ici de ces séries télévisées.
Oui, alors ce qui veut dire qu'on n'a pas tant évolué que ça, hein, depuis justement le 12e ou le 15e siècle. On réitère toujours les mêmes schémas, des choses qui plaisent, hein, de fait. Et c'est intéressant parce qu'on parlait de la force de ces images. On a eu tendance à condenser toute la période, à condenser 1000 ans d'histoire, parce que justement, on a ces anachronismes à répétition qui n'énervent que les historiens, voilà, que quelques médiévistes, mais qui sont absolument pas gênants pour la narration et pour la réception du grand public. Mais ce qui fait qu'il suffit de quelques images très simples pour donner l'impression du Moyen-Âge. Quelques iconogrammes, hein, pour reprendre les termes de François-Amy de la Bretèque, ou des réplicateurs dont parlait Gérard Chandès, mais on met quelques créneaux, on met effectivement une armure de plate, on met une épée, et voilà, on est au Moyen-Âge. On n'a pas besoin de beaucoup plus, éventuellement un son de cloche en fond pour vraiment donner cette atmosphère. Ce qui fait que le Moyen-Âge, c'est devenu une période qu'on peut résumer à quelques images. C'est très pratique et c'est très facile. Et ça, pour une série qui doit, dans en plus un panorama télévisuel qui est de plus en plus concurrentiel, on est sur des séries qui doivent capter l'attention du public tout de suite. Le Moyen-Âge est très pratique pour ça, parce que en quelques images, on sait tout de suite où on est. C'est le Moyen-Âge, peu importe en fait si on est au 5e ou au 15e siècle.
Voilà, et on se moque de l'armure. Une armure de plate, c'est-à-dire
C'est, vous savez, les armures avec les grandes plaques de métal, c'est-à-dire pas la côte de maille, par exemple. Voilà, c'est des choses beaucoup plus encombrantes qui se développent plutôt sur la fin du Moyen-Âge. Et vous savez, c'est ce qui fait un peu des bruits de casserole quand les chevaliers se déplacent.
Oui, ce sont les armures que l'on voit exposées comme ça, figées, l'armure presque idéalisée. Quelle est la recette, d'ailleurs, d'un succès? Alors, en série, bien sûr, avec cette série déjà évoquée, Les Rois Maudits, réalisée, scénarisée par Claude Barma, d'après le roman de Maurice Druon. Maurice Druon.
Barma a eu la très heureuse et ingénieuse idée, d'abord de centrer l'intérêt sur les personnages, sur les conflits humains, qui sont toujours les mêmes. Ce sont des haines de famille, ce sont des luttes pour le pouvoir, ce sont des brouilles, ce sont des amours, et ce sont des trahisons, ce sont parfois aussi des espérances, et également certaines vues de la grandeur nationale. Voilà. Bon, ben, ces choses-là sont permanentes. Alors, elles se présentent de différentes manières, évidemment, et sous différents aspects, selon les temps et les époques, mais la couleur locale, ou la couleur temporelle, si l'on veut, elle n'a pas été donnée par des décors. Chose curieuse, que dans les reconstitutions historiques, ce qui date, ce sont les décors. Car on ne faisait pas les mêmes décors du Moyen-Âge en 1920 qu'en 1950. Là, il n'y a pas de décors. Ce sont des tulles. Ce sont des espaces. Et puis, quelques objets, des costumes et surtout des personnages et des caractères, et c'est-à-dire de grands comédiens.
Maurice Druon, qui s'exprimait en 1990 à propos des Rois maudits, la série télévisée où il le rappelle, il n'y a pas de décor majeur au sens où ce sont des univers assez sombres, hein, des fonds noirs et des personnages qui se détache avec des costumes très colorés. Dans ce que dit ici Maurice Druon, donc brouille, amour, trahison, nation, ça pourrait évoluer dans tous les univers possibles parce que c'est ça qui fonctionne. La spécificité première, quand nous regardons sans suivre la série, juste sur une image, ce sont les costumes, hein, souvent, qui nous rappellent que nous sommes au Moyen-Âge.
Oui, alors pour les costumes, c'est assez amusant ce qu'il a, il a fait. Les femmes ont des costumes qui font fin XIIIe siècle, donc on est assez près du début du XIVe. Les hommes ont des costumes des années 1450 et les gardes ont des casques à nasal du type XIe siècle, c'est-à-dire du type Guillaume le Conquérant. Donc il y a déjà 5 siècles d'histoire du costume résumé là-dedans. Alors, pour les décors, je n'en dirai rien, il n'y en a pas, c'est du théâtre filmé. Mais les costumes, si on montre ça à un médiéviste, il peut s'énerver, mais heureusement, il ne s'énerve pas parce que c'est du théâtre.
Mais oui, parce que c'est ça, c'est du théâtre avant tout. Mais ça donne l'occasion de réfléchir aussi à ce qu'était le costume au Moyen-Âge. Alors, y a-t-il des séries qui tentent d'être au plus près de la période représentée ?
Qui tendent, oui. Après, est-ce que ça marche ? Ça, c'est une autre question.
Oui, c'est une autre question.
Mais voilà, on parlait de Kaamelott tout à l'heure. Les premières saisons sont effectivement complètement anachroniques dans les costumes. Et petit à petit, quand la série a eu plus de succès, plus de budget aussi, parce que c'est un élément important, ils se sont permis plus de liberté historique, j'ai envie de dire, au sens paradoxal, où ils sont revenus un peu plus proches avec des tuniques, par exemple, voilà, des choses qu'on pouvait plus porter au 5e siècle. Ils ont délaissé les grosses armures et les costumes qui faisaient un peu trop pas cher, on va dire, pour avoir des choses un peu plus précises. Il y a eu un gros travail sur les costumes, mais parce qu'ils savaient qu'à ce moment-là, ils avaient suffisamment de fans derrière eux pour pouvoir se permettre des représentations qui changent sur le Moyen-Âge. Ils pouvaient se permettre d'amener des choses nouvelles. Bon, puis après, il y a eu les films et c'est encore parti dans une toute autre direction. Mais voilà, il y a des tentatives qui sont faites aussi, mais qui dépendent aussi de ce qu'on veut amener au public et de comment on veut garder le public avec soi.
Oui, parce que pour Kaamelott, effectivement, vu le succès tellement mérité de cette série, il n'y avait plus besoin de convaincre que nous étions au Moyen-Âge, et donc les clichés n'étaient plus aussi nécessaires que par le passé dans l'ensemble de ces séries. Effectivement, Laurent Vissière, on le voit bien, ce qui importe, c'est le succès au sens où spectateurs, spectatrices doivent rester accrochés à la série. Et peu importe les artifices, même si l'anachronisme ne passerait pas si d'un seul coup on s'en détachait. C'est un jeu délicat où il faut à la fois respecter l'attente des gens, mais en même temps pouvoir garder une marge de liberté. C'est dans ce schéma-là qu'il faut aller, avec toujours la synthèse du Moyen-Âge, ces 1000 ans réduits en fait par l'image en quelques clichés.
Oui, mais vous voyez ce qu'on dit. On dit un costume de la Renaissance, un costume du Moyen-Âge, un costume du XVIIIe siècle. Pour n'importe quelle période, pratiquement, on se limite à un siècle, ce qui est déjà trop large. Mais pour le Moyen-Âge, un costume du Moyen-Âge, ça ne veut rien dire. C'est 1000 ans. Et je dirais qu'il y a deux éléments à prendre en compte. C'est l'anachronisme et la cohérence. Est-ce que nous avons des scènes cohérentes en soi ? Alors, d'accord, Kaamelott représente soi-disant le 5e siècle, mais si tous les personnages portent une tenue du XIVe siècle, on a une cohérence interne. Si vous prenez les rois maudits, eh bien, il n'y a pas de cohérence interne sur les costumes. Ça ne gêne personne, hein, bien sûr. Je dirais que la série la plus saisissante, à mes yeux, c'est Game of Thrones, où il y a une cohérence, seconde moitié du XVe siècle, qui est très grande, quand même, hein, malgré tout. Pour les armes, c'est plutôt pas mal. C'est l'ambiance, c'est la guerre des Deux Roses, la guerre anglaise des Deux Roses. Et pour une série de fantasy qui ne se prétend anhistorique, je trouve qu'il y a beaucoup plus de cohérence que dans bon nombre d'autres séries. Mais bon, Justine n'a pas l'air d'accord.
Non, je nuançais effectivement en t'écoutant, puisque on a aussi une différence temporelle qui est marquée par les costumes dans Game of Thrones, puisqu'on a par exemple les personnages qui vont être sur le continent d'Essos, qui est le continent au sud-est. Il est marqué beaucoup plus proche de l'Antiquité, donc on va avoir des costumes qui font plus anciens, alors encore une fois avec notre prisme contemporain placé dessus, et des robes magnifiques pour Daenerys Targaryen et des choses comme ça. Mais on a aussi l'idée que ce continent-là est plus ancien, ancré dans des anciennes traditions, c'est là où il y a encore de la magie, etc. Alors que sur le continent de Westeros, tu le disais, effectivement, on a une forme de cohérence à peu près globale sur l'ensemble des royaumes.
Oui, parce que dans Game of Thrones, c'est vrai qu'il y a ce jeu, je ne sais pas si je dis une bêtise, mais tout un univers géographique est lié à l'Antiquité, où on retrouve le colosse de Rhodes, on retrouve le phare d'Alexandrie. D'ailleurs, le ciel est très bleu et il y a la mer, il y a de la couleur. Quant au nord, beaucoup plus sombre, beaucoup plus terne. Là, nous sommes dans un univers médiéval avec des châteaux et c'est là où on va retrouver les grosses armures et les grosses épées.
C'est ça, et ce fameux filtre qu'on a énormément dans les séries médiévalistes, ce fameux filtre grisâtre ou marron à peu près, il y a l'idée qu'au Moyen-Âge, tout était gris, tout était terne, et il a fait de la pluie pendant 1000 ans. Donc non, mais c'est l'image qu'on a.
Laurent Vissière.
Oui, alors, on peut en discuter, mais à mon avis, il y a aussi d'autres nuances que l'on peut apporter. Par exemple, au sud, on a les Dothrakis, qui ressemblent fortement à des Mongols, tout à fait actifs au XIIIe, XIVe siècle. On a des civilisations qui rappellent l'Andalousie arabe médiévale. Même les Fernés qu'on rapproche des Vikings, à mon avis, ressemblent beaucoup plus aux frères des Victuailles, c'est-à-dire aux écumeurs des mers du nord, c'est-à-dire de la Frise, des côtes orientales, septentrionales de l'Allemagne actuelle. Et il y a une pluralité de mondes qui ne sont pas si anachroniques que ça. Alors, évidemment, le colosse de Rhodes et les pyramides, ça nous rappelle d'autres univers. Mais enfin, des pyramides, il y en a à cette époque-là, si on va chez les Aztèques et les Mayas. Hein.
Aussi.
Donc, y a justement une diversité géographique qui n'est pas forcément anachronique et incohérente en soi.
Avec un regard que vous pouvez porter sur ce filtre qu'évoquait Justine Breton, qui est un classique, hein. La même scène avec un filtre lumineux et nous nous trouvons dans l'Antiquité. Et puis, il faut un peu de boue quand même, un petit peu de gris. Et pourquoi pas de la pluie pour être au Moyen-Âge ?
C'est une idée qui a été déjà énoncée par Georges Duby, qui évoque le XIe siècle où il dit que les hommes sont gris sur une terre grise, sous un ciel gris. Enfin, une vision tout à fait apocalyptique du Moyen-Âge. Et puis, il y a une espèce d'éveil de l'Occident dans cette grisaille de l'aube, en quelque sorte, des âges obscurs, hein, pour reprendre une expression anglo-saxonne. On parle beaucoup d'âge obscur pour le Moyen-Âge en entier ou pour l'Angleterre du milieu de la fin de l'Antiquité et du début Moyen-Âge.
C'est ça, c'est qu'on a des historiens qui ont utilisé cette expression de « dark ages », les âges sombres, pour définir justement cette période entre fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge, mais notamment parce que c'est une époque où on avait peu de sources, on a beaucoup moins conservé de sources que ce qu'on peut avoir sur le milieu ou la fin du Moyen-Âge. Donc c'était une époque sombre au sens où on n'arrivait pas à faire la lumière dessus. Mais c'est une expression qui marche très très bien, qui, encore une fois, a un gros potentiel marketing et qui a été en fait très vite réinterprétée en pensant que c'est une époque sombre, au sens où c'est une époque violente, obscurantiste, et de obscurantiste à complètement obscur, il n'y a qu'un pas. Donc en fait, on a fait une succession d'interprétations de « on a peu de sources, donc on essaye de faire la lumière sur l'époque », on a interprété « c'est une époque de violence, de teinte complètement terne et de cette espèce de d'ambiance très, très sombre dans tous les sens du terme ».
Oui, c'est authentiquement sombre ce Moyen-Âge, avec quand même deux grands types de séries, j'ai l'impression, et vous allez me corriger, des séries qui se veulent raconter l'histoire telle qu'elle a été avec des personnages réels qui ont existé, et puis un autre genre où le Moyen-Âge est la toile de fond pour développer l'existence de personnages de fiction.
Oui, alors après on a assez peu de séries vraiment historiques qui s'appuient vraiment sur des personnages de l'histoire. Alors on en a un petit peu, hein, bien sûr, mais par rapport au nombre de séries adaptées d'univers de fiction, d'univers littéraire notamment, c'est beaucoup moins. Mais on a, voilà, on a quelques petites choses. Là récemment, il y a eu la série King and Conqueror, par exemple, sur justement l'histoire de Guillaume le Conquérant. Il y a une première saison pour le moment. Ils adoptent tous les clichés de ce filtre grisâtre, de il y a de la violence, des femmes violées dès les deux premiers épisodes. Enfin, voilà, tout ce qu'on attend, des gros clichés sur le Moyen-Âge. Et j'ai trouvé, par exemple, que cette série, sous couvert d'un événement historique, alors encore une fois, avec ce qu'on a hein, comme information dessus, ils ont réussi à proposer quelque chose d'un peu plus nouveau, c'est-à-dire qu'ils partent de ces clichés. Et petit à petit, tout au long de la saison, si on s'accroche, on se rend compte qu'ils proposent de nouvelles formes de narration, des personnages qui sont plus ambigus qu'il n'y paraît, comme ce qu'on avait dans Game of Thrones, mais aussi des personnages masculins qui sont moins les grosses brutes qu'on a l'impression qu'ils sont, des personnages féminins qui agissent beaucoup plus que ce qu'on pourrait avoir l'impression. Donc ils amènent petit à petit de la nuance dans ce récit historique pour aussi parler justement aux spectateurs contemporains qui ne se reconnaît pas forcément dans ces modèles clichés du Moyen-Âge.
Et dans ces récits historiques, nous avons bien sûr les rois maudits avec tous ces personnages qui sont dans les livres, qui sont là dans les archives, notamment Philippe IV, Philippe le Bel.
Ramené pour mourir à Fontainebleau, où il était né, le roi erra en lui-même comme un voyageur égaré.
Où sont mes victoires? Qu'ai-je fait qui soit assuré de durer après moi? Nous avons fait canoniser mon grand-père, le roi Louis, par le pape Boniface. Était-il vraiment un saint?
Un saint est un bel ornement dans une famille royale.
Et les Juifs, n'en avons-nous pas trop fait brûler? Ce sont créatures humaines, souffrantes et mortelles comme nous. Dieu ne leur donnait pas.
L'œuvre était sainte, puisque le royaume avait besoin de leur richesse. Rien n'est grand, sire, qui n'ait sa part de doute. Vous avez régné grandement. D'un royaume partagé, vous avez fait un pays qui commence à n'avoir qu'un seul cœur.
Partout on crie. Partout on se plaint du renchérissement du blé et de la modicité des salaires. Et ceux qui crient ne peuvent pas comprendre que ce qu'ils réclament et que je voudrais leur donner dépend du temps et non de ma volonté.
Sire, ne leur demandez pas de comprendre. Ils cesseraient vite d'obéir.
Le peuple. Jamais unanime, sauf dans l'ingratitude.
Philippe le Bel, mort en 1314 dans Les Rois Maudits. Ah ben Laurent Vissière, voilà, là par exemple, on a un moment d'histoire, alors reconstitué, fictionnalisé, mais ici, l'auteur, alors que ce soit Maurice Druon ou Claude Barma, scénariste de la série, s'appuie sur le travail des historiennes, des historiens, des sources aussi, pour construire ce discours.
Je dirais même que le texte est assez remarquable. Il y a rien de faux là-dedans. Alors, c'est condensé, mais qu'est-ce que le spectateur va voir? Ben d'abord, un éloge de la raison d'État. De fait, Philippe le Bel est un de ses premiers rois à mettre en avant ce qu'on appellera plus tard la raison d'État, l'idée de créer un État fort. On voit également le peuple souffrant, qui ne comprend pas. Et de fait, le début du XIVe siècle est une mauvaise période climatique. Donc, il y a également une réalité. Et c'est une très belle introduction au reste de la série, puisqu'on va voir l'œuvre de Philippe Bel mise en morceaux. La France déchirée, la couronne à l'encan, le peuple révolté. Donc, c'est une très, très belle mise en bouche. Et d'un point de vue historique, là, pour le coup, on peut pas hurler.
Oui, voilà, c'est une belle proposition, Justine Breton. C'est du médiévalisme au sens où c'est une création artistique, en l'occurrence, qui s'inspire du Moyen-Âge. Mais on entend bien que dans le médiévalisme, il y a des degrés. On peut aller très, très loin ou on peut le faire en subtilité.
Oui, parce qu'on a du médiévalisme dans Les Rois Maudits, comme on a du médiévalisme dans la saga Mad Max. Hein, donc c'est très, très éclectique. Et effectivement, il y a parfois une volonté de se rapprocher au plus près de l'histoire. On a des séries qui font appel à des consultants historiques, alors de façon plus ou moins soutenue et avec des consultants qui sont plus ou moins écoutés. Mais on a malgré tout une volonté de se rapprocher au plus près. Et on a d'autres séries, et je pense notamment à pas mal de séries de fantasy qui intègrent justement de la magie comme élément central de l'intrigue. Là, le Moyen-Âge peut avoir parfois une présence plus diffuse. Je pense à des séries comme les Chroniques de Shannara. Ils vont employer des éléments de médiévalisme, mais ils vont aussi piocher dans différentes époques pour que ça plaise à un très large public. Donc on peut avoir un tout petit peu ou énormément de médiévalisme. C'est très variable et si j'ai envie de dire, c'est aussi tout l'intérêt des séries d'avoir un temps long, en tout cas quand elles fonctionnent, quand elles plaisent au public. Ce qui fait qu'on peut avoir des séries qui commencent avec peu de médiévalisme et se renforcent ou inversement. Donc ça peut aussi être une échelle un peu variable sur l'ensemble d'une narration.
Est-ce qu'il y a des points communs à toutes ces séries, au-delà simplement du décor, des costumes, de l'univers ? Est-ce que nous avons, notamment en vous lisant Justine Breton, Un Moyen-Âge en clair-obscur, hein, votre travail sur le médiévalisme dans les séries télévisées, des chapitres qui sont extrêmement clairs, notamment sur la place de la noblesse, sur la place d'une noblesse masculine et virile ? Ça, dans toutes les séries, on entend beaucoup de voix d'hommes, hein.
Oui, alors ça change hein, petit à petit. Depuis les années 2010, on avance, même si on a désormais remplacé les modèles très majoritairement masculins par un modèle de femme jeune, très grande, très blonde. Donc, bon, on apporte plus de diversité, mais on avance doucement. Mais de fait, il y a cette idée que les récits centrés sur le Moyen-Âge, c'est beaucoup centré sur la noblesse régnante et sur des guerriers. C'est-à-dire des personnages qui vont être actifs et qui vont permettre justement d'avoir de beaux costumes et de beaux décors. Et on a quelques autres récits, on a quelques présences du peuple, mais c'est très rare. Souvent, ils se fondent plutôt dans le paysage. On a très peu d'artisans également. On a l'exception avec les piliers de la terre, par exemple, parce que c'est consacré à la construction d'une cathédrale. Mais voilà, on est très principalement basé sur ces personnages de rois, de guerriers, de seigneurs, et donc de fait beaucoup d'hommes.
Dans tout ça. Beaucoup d'hommes dans ces séries-là.
Alors, je dirais que pour le peuple, il y a Thierry Lafronde qui abandonne sa noblesse.
Mais ça reste un seigneur.
Ça reste un seigneur. Mais il rassemble autour de lui des gens du peuple. Il y a une équipe et nationale, pour le coup.
Et puis Thierry Lafronde, c'est tout de suite l'aventure.
Je suis bien mort, non ?
Non.
Non ? Alors faut que je m'en aille. Faut que je retourne au village. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de clouer sur ma porte. J'y vais.
Non, Bertrand. Tu n'iras pas au village avant longtemps. Ni moi non plus.
Mais alors, ouais. Mais qu'est-ce qu'on va faire ?
Nous nous cacherons. Nous connaissons ces bois mieux que les Anglais. Nous lutterons. À notre manière. Celle dehors la loi que nous sommes maintenant. Je te remercie de ton aide, Jean. Te voici libre. Je te souhaite bonne chance.
Non, monsieur Thierry, je reste avec vous. Oui, je sais, je suis un drôle de compagnon, j'ai pas tellement le sens de l'honnêteté, mais...
Tu soulignes l'honneur. Ce n'est déjà pas si mal.
Oui. Et nous allons leur faire payer cher tout le mal qu'ils nous ont fait. Me pendre, moi. Nous allons faire du bon travail, monseigneur.
Non pas monseigneur. Officiellement, Bertrand, tu es mort. Mais Thierry de Jonville aussi est mort. Prenez garde, monsieur Roland. Prenez garde, prince Édouard. Thierry de Jonville n'est plus, mais il reste Thierry Lafronde.
Jean-Claude Drouot et Thierry Lafronde dans la série télévisée des années 1960. Thierry Lafronde, c'est un peu notre Robin des Bois à nous. Robin des Bois d'ailleurs, Justine Breton, vous étiez intervenue dans le cours de l'histoire pour l'émission Robin des Bois sur les traces d'un brigand au grand cœur. Émission à retrouver, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Laurent Vissière, Thierry Lafronde, émotion bien sûr.
Oui, enfin,
ouais, je sens le bémol. Hein.
C'est quand même pas ma génération. Hein.
Ah bah non.
Vous me vieillissez.
Non, je vais pas vous vieillir tant que ça, mais ça a été rediffusé plein de fois. Écoutez, même moi, je l'ai vu. Donc...
À vrai dire, je préfère la parodie des Inconnus.
Thierry La France.
Mais y a un contexte, Thierry La Fronde. On est au début des années 60 et le premier épisode montre que les Anglais viennent de brûler un village, donc c'est Oradour, et c'est un éloge de la résistance, très clairement. Donc les spectateurs avaient en tête une autre histoire qui n'est absolument pas médiévale. Donc on lutte contre les Anglais, mais on pense aux Boches. Lorsqu'il y a un château occupé par les Anglais, il a eu des airs de commandant tour, et ça se passe en Sologne occupée. Et à ma connaissance, la Sologne n'a jamais été occupée par les Anglais. Hein. Donc là, on est très très loin de... Et il a une fronde parce que Robin des Bois avait déjà un arc.
Ah oui, tout simplement. Et puis pour les décors, avec Thierry La Fronde, nous avons l'archétype ici de l'économie de la série télévisée au sens des budgets. Décors minimalistes. Pour Les Rois Maudits, c'était des grandes pièces de tissu noir. Là, pour Thierry La Fronde, c'est la forêt.
La Sologne, oui.
Oui, c'est ça.
La forêt, les étangs.
Parce qu'il faut ça, hein, dans un univers médiéval, il nous faut beaucoup de nature.
C'est important d'avoir des grandes étendues qui permettent aux cavaliers, par exemple, de s'arrêter et de voir le château au loin. Comme ça, on peut juste faire une petite maquette de château, comme l'avaient déjà fait les Monty Python dans Sacré Graal, ou un effet d'incrustation, ça coûte pas trop cher. Et effectivement, la forêt, c'est un gros avantage pour les tournages, parce que on peut en trouver pas mal en France, même si nos forêts actuelles ne ressemblent pas vraiment aux forêts du Moyen-Âge. Mais ça donne tout de suite l'illusion de... on est dans un autre espace-temps, et... Après, il suffit justement de quelques personnages en costume, d'un fanion quelque part, et éventuellement d'un son de corne, et on se retrouve dépaysé complètement. Donc c'est très pratique et très économique, la forêt.
Et très médiéval, puisque dans les romans de chevalerie, un chevalier quitte son château, traverse la forêt, se perd et entre dans une clairière, découvre un nouveau château, une lande, mais la forêt est le contraire en fait du chemin. La forêt est faite pour se perdre.
Ah oui, dès lors, l'aventure peut commencer. Dans Thierry La Fronde, il y a un personnage féminin, c'est Isabelle. Thierry veut absolument retrouver Isabelle et c'est bien difficile. Ici, nous sommes vraiment dans l'archétype de l'imaginaire de ce que peut être l'amour courtois. C'est-à-dire, la princesse est dans son château, elle est prisonnière et il faut un proche chevalier. Alors là, en l'occurrence, c'est Thierry de Janville, dit Thierry La Fronde, qui aimerait bien la délivrer. C'est un conte de fées.
Oui, c'est un conte courtois. L'homme est là pour faire des exploits qui montrent qu'il est digne de sa dame. Et parmi ces exploits, il peut y avoir délivré la dame d'un dragon, d'un méchant seigneur, d'un brigand, d'un bossu, d'un lépreux. On a ça aussi. Hein. Donc, toutes sortes de gens non fréquentables au Moyen-Âge. Et Thierry de Janville est dans une tradition littéraire tout à fait standard.
Et dans l'évolution des séries télévisées, parce qu'avec Thierry La Fronde, nous sommes dans les années 1960, vous nous avez dit, Justine Breton, qu'on voit une place accordée aux femmes de plus en plus importante, qui correspond d'ailleurs à l'évolution de la société.
Oui, de fait, hein, les séries alors, sont d'abord un écho de ce que nous, on attend aujourd'hui. Et dans les séries des années 60-70, on trouve beaucoup, de toute façon, on le voit au titre, hein, Thibault ou les Croisades, Ivan Noé, voilà, les aventures de Galahad. On se retrouve avec des séries centrées sur un héros masculin, généralement un chevalier ou un seigneur, qui va fédérer autour de lui tout un tas de gens, parce que forcément, c'est quelqu'un de très charismatique et qui sait unir les peuples. Et petit à petit, on avance, on va avoir de plus en plus de groupe aussi, ce qui permet d'avoir plus d'intrigues, ce qui fait des séries plus longues avec des narrations croisées. Donc ça demande aussi un peu plus d'exigence de la part du spectateur à partir des années 80-90, parce que Thierry La Fronde, on pouvait simplement regarder un épisode en plein milieu et on n'avait pas besoin de suivre le reste. À partir des années 80-90, on va avoir de plus en plus de séries qu'on dit feuilletonnantes, c'est-à-dire, globalement, si vous avez loupé les trois premières saisons, ça va être compliqué de commencer en plein milieu de la quatrième. Donc on a besoin de narrations aussi suffisamment étoffées pour remplir tout ça. Donc on rajoute des personnages, ce qui nous donne l'occasion de rajouter un peu plus de personnages féminins, qui, petit à petit, vont aussi arriver sur un pied d'égalité avec les personnages masculins. Et il faut attendre globalement les années 2010, voire 2020, pour avoir vraiment des séries centrées sur des figures féminines qui sont généralement pas seules, mais pour avoir des femmes de premier plan qui, pour beaucoup, ont un rôle qu'on a attribué en fait pendant longtemps à un homme, c'est-à-dire qu'elles règnent, elles combattent. On n'a pas encore vraiment de modèle dans les séries de femmes qui seraient puissantes comme pouvaient l'être les femmes puissantes au Moyen-Âge. il faut toujours que ça passe par le côté guerrier, notamment, mais parce que c'est encore une fois de la fiction et c'est du spectacle. Et on s'attend à un divertissement spectaculaire.
C'est le cas dans la série Viking.
Comme il est étrange, Lagertha, que tu tiennes le rôle de l'usurpatrice. Une femme contre une autre, cela ne correspond pas vraiment à ta réputation.
Je n'ai jamais été une usurpatrice. C'est toujours moi qu'on a spolié. Tu as pris mon époux, mon monde, ainsi que mon bonheur. Le fait que tu sois une femme ne change rien à cela.
Je n'ai pas pris ton époux, il a choisi d'être avec moi.
Tu l'as ensorcelé.
Si c'est ce que tu veux croire, libre à toi. Des femmes peuvent avoir une emprise sur des hommes, mais ce n'est pas toujours de la magie, n'est-ce pas, Lagertha? Quoi qu'il en soit, Ragnar est mort.
Tu n'en sais rien.
Je l'ai vu dans un rêve. Je l'avais mis en garde contre son voyage. Dans mon rêve, ses navires ont coulé dans une tempête et Ragnar est mort. Les dieux avaient prédit que Ragnar aurait de nombreux fils. Et je lui ai donné ses fils. Je fais tout autant que toi partie de son histoire, Lagertha. Mais dorénavant, je renonce à tout.
Dans la série Viking, saison 4, Ragnar est mort. Lagertha devient reine. Laurent Vissière, c'est la temporalité ici de la série télévisée qui nous permet de saisir aussi la force de ce vecteur de médiévalisme et non pas de l'histoire du Moyen-Âge. Ça, je l'entends bien. C'est une grande différence par rapport à un film. C'est d'avoir cette durée qui permet, comme nous disait Justine Breton, de faire entrer d'autres personnages, d'autres intrigues, d'autres histoires et donc d'autres regards.
Oui, c'est le principe de la série, c'est qu'elle est profondément immersive. On va suivre des personnages et pour qu'il y ait des saisons nouvelles, il faut que les personnages changent et notamment changent de statut. Donc c'est important de montrer l'évolution pour des femmes. Mais en l'occurrence, avec le personnage de Lagertha, on entre dans un fantasme de plus en plus répandu et qui a vraiment le vent en poupe dans les séries actuelles. C'est la femme combattante qu'on appelle parfois la guerrière ou la chevaleresse ou des choses comme ça. Alors, chez les Vikings, il y a un doute puisqu'il y a la fameuse tombe de Bjarka où on a fouillé comme une tombe d'homme au XIXe siècle et puis réévalué et c'est une femme enterrée avec toute une panoplie guerrière. Est-ce à dire qu'elle a combattu? En fait, on n'en sait rien. Elle est enterrée avec des symboles de pouvoir. Donc, là, une certitude, c'est que c'était une femme de pouvoir, honorée de son vivant, honorée après sa mort. Ensuite, est-ce qu'elle a manié l'épée? C'est possible. Certaines sagas pourraient laisser entendre que, dans certains cas, ça se faisait. C'est donc de l'ordre du possible, mais pas de la certitude. Or, la série nous donne des certitudes, puisqu'on a une femme, d'abord, qui se bat avec son mari, hein, pour montrer qu'elle est l'égale de son mari, puis se bat avec d'autres hommes, met en fuite d'abord des brigands, alors ça c'est petit joueur au départ, mais petit à petit, elle se met à conduire des armées, et elle conduit même le siège de Paris à un moment donné, et on s'aperçoit que Paris est défendu par une autre femme. Donc là, vraiment, elle a pris du galon.
Et dans Game of Thrones, exactement pareil, nous avons des femmes chefs d'armée.
Pas tellement.
La Khaleesi, avec ses dragons.
Elle finit tellement bien.
Dites pas la fin. Divulgâchez pas.
Sans divulgâcher, c'est un des problèmes de Game of Thrones sur les dernières saisons, c'est que justement, on leur a beaucoup reproché tout au long de la narration de mettre énormément en avant les violences sexistes et sexuelles, de s'acharner un petit peu sur les personnages féminins. Souvent, les producteurs ou les showrunners ont un peu brandi cette espèce de joker en disant « c'est pas nous, c'est le Moyen-Âge qui était violent comme ça ». Donc là, ce qui a fait grincer des dents, effectivement, les médiévistes de la planète entière. Mais ce qui fait que petit à petit, ils ont pris le contre-pied, ils se sont mis à insister davantage sur des femmes, effectivement, de pouvoir. Donc on a autour de Daenerys, autour de Sansa, on a aussi le personnage de Cersei, à sa façon, qui est une femme extrêmement puissante. Donc ils sont partis un petit peu sur l'extrême inverse. Et petit à petit, la narration de la série a dépassé leur trame romanesque, puisque George Martin n'a pas encore écrit la fin. On continue à y croire malgré tout, ce qui fait qu'ils ont un petit peu précipité la fin dans les deux dernières saisons et ils sont retombés dans des clichés de fantasy notamment, avec l'idée que une femme de pouvoir est forcément une femme méchante et une femme négative. Donc avec l'idée qu'il fallait évincer toutes ces méchantes femmes, donc que ce soit Cersei, Daenerys, même Sansa d'une certaine façon, sans spoiler, elle se retire en partie de sa féminité pour pouvoir assumer un poste de pouvoir. C'est difficile sans spoiler, à la fin. Donc on sent qu'il y a encore une ambivalence sur le fait de représenter des femmes de pouvoir, ambivalence qu'on va parfois projeter justement sur le Moyen-Âge. Or, on sait qu'il y avait des femmes puissantes au Moyen-Âge, ça ne veut pas dire que toutes les femmes étaient puissantes.
C'est important de le rappeler, et puis ce que vous venez de dire là, Justine Breton, c'est vraiment cela aussi qui nous permet de saisir comment, dans toutes ces séries télévisées qui concernent le Moyen-Âge ou qui prennent le Moyen-Âge comme toile de fond, ces séries médiévalistes, nous avons beaucoup de violence parce que c'est ce joker. Le sexisme, c'est ce joker. Oh, ça se passe au Moyen-Âge, et donc ça renforce aussi les clichés sur le Moyen-Âge.
Bien sûr, mais dire que la guerre est permanente au Moyen-Âge n'est pas non plus totalement faux. Il y a
tout comme la guerre est permanente aujourd'hui.
Oui, enfin, il y a quand même tout l'aspect guerre féodale, qui sont des guerres à bas bruit, qui sont des guerres limitées. Mais enfin, c'est limité. Mais lorsque vous habitez un village qui est brûlé, le fait que ça ne concerne que votre village, ce n'est pas une consolation. Voilà. Donc, lorsqu'on montre ces scènes de combat, de pillage, on n'est pas non plus dans le délire le plus absolu.
Voilà, ce sont des clichés, mais nous savons bien que tout cliché a un fond de vérité. Après, c'est l'exagération que l'on en fait et la généralisation, parce que systématiser les choses. Mais c'est intéressant de le voir aussi, parce que au moment d'écrire les scénarios, il y a la volonté de chercher là où on se dit ça va plaire aux téléspectateurs et aller plus loin. Donc on y met quoi pour le Moyen-Âge ? Je le dis simplement, de la violence, du sexisme.
De la violence, du sexisme. Alors, il y a aussi des beaux châteaux, des beaux décors, pas mal de choses à ce niveau-là. Et il faut aussi un héros qui est ancré dans le Moyen-Âge, mais qui aspire à sortir du Moyen-Âge. Il faut un héros, en fait, très contemporain, auquel les spectateurs vont pouvoir s'identifier, c'est-à-dire celui qui va amener de l'innovation, celui qui va amener des idées nouvelles. Donc, c'est Ragnar dans Vikings, c'est Tyrion ou Jon Snow dans Game of Thrones, c'est Arthur dans Camelot. Voilà, un héros qui veut tirer, en fait, son époque hors de ce marasme qui est censé être le Moyen-Âge.
Oui, et puis vous avez des personnages qui sont absolument incroyables, et c'est ce que vous disiez, Laurent Vissière, avec ces séries sur le temps long, on s'attache, ou en tout cas, nous sommes proches de ces personnages, nous voyons leur évolution et leur volonté de faire bouger les choses, parce que ce sont des phénomènes aussi de génération, et on veut faire bouger les choses. C'est le cas dans Game of Thrones d'Arya, la ptiote là, qu'on voit grandir.
Qui êtes-vous ?
Ton maître à danser, Cyrio Forel. Demain, tu l'attraperas. Maintenant, ramasse-la.
Elle est trop lourde.
Elle est lourde comme il faut qu'elle le soit pour te rendre fort. On fait comme ceci. Une main, c'est tout ce qu'il te faut. Montre-moi comment tu tiens l'épée. Tu dois la tenir avec délicatesse.
Et si je la laisse tomber ?
L'acier doit faire partie de ton bras. Peux-tu laisser tomber une partie de ton bras ? Non. Pendant 9 ans, Silvio Forel a été première épée du seigneur de la mer de Braavos. Il connaît ces choses-là. Tu dois m'écouter, mon garçon.
Je suis une fille.
Garçon, fille, tu es une épée. Voilà tout. Maintenant, nous allons commencer la danse. Souviens-toi, mon enfant. Ce n'est pas la danse de Westeros que nous allons apprendre. La danse de chevalier, ou en taillade, ou au martel. Ceci est la danse de Braavos. La danse de l'eau. Tous les hommes sont composés d'eau. Est-ce que tu le sais? Si on les perce, toute l'eau s'échappe et ils meurent. Maintenant, à toi d'essayer de me toucher.
Un cours d'épée que reçoit Arya Stark. Arya, donc, c'est une gamine du Nord et qui vit dans un château où il y a de la neige et où il fait froid. Le Moyen-Âge n'est pas loin. Et là, elle se retrouve au Sud, dans un palais très lumineux avec des grandes fenêtres et un maître d'armes italien qui a un tantiner un petit air de renaissance. Laurent Vissière, il y a ici des personnages comme ça qui jouent sur les codes, on est entre deux mondes et en tant que spectateur, on n'est pas obligé de les comprendre, mais nous recevons tout cela et ça nous raconte une histoire. Une histoire qui est plaisante parce qu'elle mobilise quelque part dans notre cerveau des choses que nous avons croisées à l'école, peut-être dans les livres d'histoire ou dans d'autres séries.
Et c'est pas du tout choquant, hein, cette scène. Nous avons des maîtres d'armes italiens avec des traités d'escrime italiens au XVe siècle. Et le fait qu'une fille apprenne l'escrime est envisagé dans ces traités. Donc c'est pas absurde du tout et on a quelques cas de femmes qui visiblement savent manier plus ou moins l'épée. Le problème, je dirais, c'est l'escrime dans les séries. Alors Game of Thrones, c'est pas trop mal, c'est une escrime médiévale historique pas trop mal faite. Mais vous prenez Thierry la Fronde, c'est tiré des films de KPDP. Donc en fait, il utilise une épée médiévale pour faire de l'escrime façon mousquetaire, avec un fleuret.
Ouais, il se fait tuer normalement.
Vous prenez The Witcher, et lui, il utilise une escrime qui est plutôt d'arts martiaux ou de samouraï. Il a d'ailleurs une tête de samouraï à moitié. Hein, on voit la confusion avec d'autres styles d'escrime qui apparaissent.
Oui, c'est là où le spectacle prend le dessus. Pour qu'un combat à l'épée soit spectaculaire, il faut faire de l'escrime de spectacle.
C'est ça. Et alors, on peut reprocher beaucoup de choses à la série The Witcher, et je suis la première à le faire. Mais de fait, il y a des très beaux combats, c'est-à-dire très chorégraphiés, pas historiques du tout, mais très divertissants avec une dimension cinématographique. On a aussi, là, encore une fois, cet effet de transmédialité, parce qu'on est sur une série adaptée de romans, d'une œuvre littéraire, mais il y a aussi un jeu vidéo qui est passé par là. Et en fait, l'idée, c'est de reproduire dans la série les sensations que le joueur pouvait avoir en jouant, justement, en faisant ses combats. Donc on a des pirouettes, on a des épées qui tournent dans tous les sens. Effectivement, d'un point de vue martial, je questionne la viabilité du combattant, mais ça donne un grand spectacle sur un petit écran.
Et vous venez d'évoquer les jeux vidéo, Justine Breton, parce que notre imaginaire de ce monde médiéval, notre médiévalisme nous vient de nos lectures, des séries télévisées, quand une nouvelle génération à laquelle j'échappe ne connaît pas. Hélas, et je le dis vraiment, hélas, cet univers des jeux vidéo qui offre encore... Alors, les mêmes clichés ou d'autres clichés peut-être ?
Alors, il y a les mêmes clichés. On va avoir des jeux qui jouent beaucoup sur ça. Je pense au jeu Dark Souls qui justement s'inspire d'une vision très 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 sombre du Moyen-Âge de fantasy où là globalement en plus on va mourir à tour de en boucle dans ces jeux jusqu'à ce qu'on maîtrise la roulade globalement. Donc on a des esthétiques qui vont vraiment pousser le curseur au maximum, mais on a aussi des univers médiévalistes beaucoup plus colorés, toujours basés sur l'aventure, je pense à tous les jeux autour de Zelda, Legend of Zelda par exemple, et on a aussi des choses un peu plus récentes et beaucoup plus polyvalentes. Je pense à quelque chose comme Tiny Glade, qui permet de créer des paysages médiévaux, des petits châteaux, des petits... C'est très bucolique, c'est très apaisant, et on peut avoir un Moyen-Âge plus de contes de fées, là, mais où on n'a pas de violence, où on n'a pas de combat, et on n'a pas nécessairement des gens qui se tranchent la tête tout le temps.
Ça, c'est pas mal. Et d'ailleurs, une tête, on n'arrive pas à la trancher d'un coup d'épée, et elle saute en l'air. Vous me faites non, Laurent Vissière, on est bien d'accord.
Surtout que le cou est protégé, en général, par un gorgerin ou un camail de main.
Et... Voilà, en plus encore, quoi. Et alors, dans cette histoire, là, c'est vrai que nous avons évoqué les différentes composantes d'une société, et on l'a dit très vite tout à l'heure, mais ces absents constants, ce sont les plus modestes, les pauvres, on les trouve parfois. Kaamelott.
Non mais là, autant d'habitude, c'est pas mon genre de faire des histoires, hein. Autant là, je crois qu'on est arrivé à des extrémités, et que si on ne fait pas des cas de fer ménin, dans pas longtemps, ça sera trop tard.
Bon, allez-y, Arthur vous écoute.
Attention, il s'agit de se remuer à trouver une solution.
On est là pour ça. À quel problème?
Au chou.
Au quoi?
L'autre fois, là, on a essuyé une attaque de Romains. Est-ce que vous vous souvenez du lieu de la bataille finale?
À 100 pas à peu près du rempart sud.
Tout juste, en plein dans les plantations de choux. Le champ rasé à blanc, même plus de quoi faire une soupe. 2 mois avant, pareil avec les Vikings. Il n'y a plus un chou de mangeable.
Enfin, vous savez, on ne choisit pas tellement l'endroit où on se fait attaquer aussi.
La solution, elle est simple, hein. On replante dans le seul endroit qui risque rien.
Où ça?
Dans l'enceinte du château. Bon, et regardez, là, je vous en mets 8 rangées à côté du mur, là. Je peux pas faire moins, hein, hein. Après, des contreforts, je fais des petites touches, là. 2 rangées par là, 2 rangées par ci.
Bon, hein. Alors, attendez. Jusqu'à maintenant, on avait convenu qu'on réservait un petit coin. Et là, vous me parlez de rangées.
Bon, un petit coin, vous me faites rigoler. 5000 pouces, ça va faire un joli petit coin, je préfère être franc.
5000 pouces? Non, mais vous êtes dingue, on pourra même plus passer.
Oh, ben, je vous réserve une petite allée pour circuler, on n'est pas des bêtes. Bon, il y a quand même des endroits, faudra un peu enjamber.
Enfin, je vais pas accueillir les chefs de corps en demandant d'enjamber des rangées de choux, j'ai passé pour quoi?
Ah, c'est ça, l'agriculture, c'est pas assez chic. Hein, quand c'est des carrés de tulipes, ça va, mais dès qu'on parle légumes et céréales, non?
Non, je m'excuse, dans une cour de château, il y a quand même plus souvent des carrés de tulipes que des rangées de choux.
Ouais, eh ben, la prochaine famine, hein, si vous avez des tulipes à bouffer, vous viendrez pas pleurer.
Formidable Kaamelott, Laurent Vissière, la place, c'est vrai, des paysans, des paysannes dans ces séries télévisées, c'est aussi une toile de fond. Ça apparaît, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais ça correspond au manque de sources. Pour le dire d'une autre manière, parce que historien arrive à les trouver ces sources et arrive à décrire le monde paysan. Mais les documents tels qu'ils sont imaginés, ces manuscrits enluminés, laissent moins de place aux paysans que aux élites dominantes.
Bien sûr, on les voit moins, les paysans, mais il faut surtout voir qu'on est toujours dans la tradition littéraire médiévale, où les romans de chevalerie montrent le monde vu d'en haut, vu du haut d'un canasson pour le chevalier, vu du haut d'un donjon pour le seigneur. Donc il regarde en haut et il méprise viscéralement les gens qui courbent les chines pour toucher la terre. Le paysan est méprisable, dans les romans de chevalerie ils apparaissent très peu, ou sont perçus comme des monstres. Chez Chrétien de Troyes, il y a une paysan, on n'est même pas sûr que ce soit un homme. C'est tout à fait symptomatique. Et ensuite, lorsqu'il brûle les villages, il trouve ça amusant, parce que y a un chroniqueur qui dit à un moment, là, on brûle les villages, ils ont des toits de chaume, on dirait qu'ils le font exprès pour être brûlés. Là, nous sommes au XVe siècle. Hein, et on dit que Bayard est un bon chevalier parce que lui, quand il quitte un village, il ne met pas le feu à la maison où il a dormi. Donc, c'est présenté comme une exception. Donc, ça donne une idée de l'ambiance et du mépris dans lequel on tient les classes inférieures et surtout les classes paysannes, ceux qui touchent la glèbe, les cutéreux.
Et puis dans cette lecture, nous avons des séries télévisées, nous le voyons bien, ce sont tous les échos aux préoccupations contemporaines. Ça vaut pour les séries télévisées, mais ça vaut pour tant d'autres créations culturelles qui font que cela fonctionne. Et Kaamelott fonctionne ainsi. Là, quand on entend la misère paysanne évoquée au temps de Kaamelott, c'est un écho à d'autres préoccupations d'autres temps.
Oui, alors on en profite pour embrasser Serge Papagali, hein, qui interprète le rôle de Guétenot et qui est fabuleux dans ce rôle. Mais effectivement, c'est l'écho là à tout un tas de... Alors, il y a eu des révoltes paysannes au Moyen-Âge, mais c'est quelque chose qu'on connaît toujours aujourd'hui, parce qu'on a toujours des préoccupations très fortes qui, de fait, ne nous quittent pas véritablement. Il faut toujours penser à ne pas oublier ce monde paysan.
Merci en tout cas vivement à tous les deux, parce que déjà ça nous donne envie de voir ou de revoir ces séries télévisées, mais avec tout ce que vous nous apportez en plus et cette légitimité de ces séries comme objet culturel, ça nous donne envie aussi de redécouvrir Bayard que vous venez de citer, parce que Laurent Vissière, vous êtes co-auteur avec Benjamin de Ruel de l'énigme Bayard, une figure emblématique, ça c'est clair, une figure européenne de l'humanisme guerrier. C'est aux presses universitaires François Rabelais et Justine Breton. Bien sûr, il y a votre Moyen-Âge en clair-obscur, le médiévalisme dans les séries télévisées. Merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Prochain épisode dans le cours de l'histoire d'Anton Abbey, Peaky Blinders, The Crown, portrait de la nation anglaise.
Maintenant, la reine va recevoir l'onction. C'est le moment le plus fervent. Le plus solennel et aussi le plus sacré de toute cette cérémonie.
Alors pourquoi nous ne le voyons pas?
Parce que nous sommes de simples mortels.
The Crown dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau et Cassandre Puel, à la technique Jean-Guilain Meige. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Sidonie Lebeau, Joseph Seguel et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.